Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Promi, Crédit Advisor et Opinion System.
Il est 8h02 dans le Mac de l'Immo sur Radio Immo. Vous êtes les bienvenus. On est très heureux d'être avec vous ce matin, avec Bérénice Deville également, qui m'accompagne pour cette matinale spéciale, si je puis dire, parce que notre invité est un invité spécial. Voilà, on peut le dire. En tout cas, c'est Bertrand Blanpin, que vous avez déjà entendu un petit peu avant 8h, qui est avec nous, qui est président du directoire d'Arkéa Banque Entreprise et Institutionnelle, filiale du crédit mutuel et un acteur du développement économique dans les territoires, puisque vos clients, c'est non seulement les entreprises privées, bien entendu, et notamment de l'immobilier, mais également les collectivités locales et les régions. D'ailleurs, il y a des régionales qui arrivent. On va en parler un petit peu tout à l'heure, parce que tout est lié, hein, politique, économie, évidemment. Bertrand Blanpin, on est très heureux que vous soyez évidemment avec nous. Et Bérénice souhaitait vous poser la première question.
Oui, alors vous avez quasiment commencé votre carrière dans le milieu de la banque, hein. Vous êtes un homme de caisse. Vous avez donc une bonne vue depuis de nombreuses années, hein, sur les évolutions du milieu bancaire. Quelles sont, à votre avis, les évolutions majeures des 5 dernières années et quelles sont celles que vous anticipez sur les 10 prochaines ?
Alors, sur la banque, même depuis plus de 5 ans, les banques cherchent le modèle de la banque de détail. Oui. De la distribution. Il faut rappeler qu'avec l'obligation de verser les salaires sur un compte bancaire et non plus en espèces, les Français se sont bancarisés dans les années 70. Et donc, le réseau de distribution unique qui existait, c'était les agences. Et en fait, les banques françaises ont tissé un maillage relativement dense sur les territoires. Et depuis, on va dire, une vingtaine d'années, depuis les années 2000, on s'aperçoit que les jeunes générations sont de plus en plus utilisateurs de moyens à distance. C'était avec Internet au début des années 2000. Maintenant, on est sur les smartphones, sur les devices. Les gens vont de moins en moins en agence. Et donc, le principal canal de distribution que sont les agences bancaires sont complètement désertées. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, il pouvait y avoir plus de 200 personnes qui attendaient dans les agences pour attendre son tour, pour faire des opérations courantes, retirer de l'argent, déposer de l'argent, etc.
Ça, ouais.
Et maintenant, les agences sont désertées. Donc, les banques cherchent quels pourraient être les moyens de distribution, comment mieux satisfaire les clients. Et donc, il n'y a pas de réponse pour l'instant. Il y a des tentatives de réponse. Mais on s'aperçoit aussi que les réponses ne sont plus du tout uniques comme ça a pu être le cas jusqu'à présent. Et que chaque typologie de clientèle, alors elle n'est pas forcément ni liée à la CSP, ni liée à l'âge, ont des besoins différents. Et en fait, ils veulent pouvoir utiliser la banque comme ils veulent, quand ils veulent, sur des différents canaux.
Donc, les applications, voilà. Etc.
Les applications, mais aller aussi en agence ou avoir des conseillers à distance. Mais, et il y a une recherche très forte du conseil.
Justement, Bertrand Blanpin, est-ce qu'il ne faut pas être inquiet ? Vous qui avez ce lien si particulier avec les territoires, on sent bien quand même que beaucoup de territoires se sentent abandonnés, ou en tout cas les gens ont ce sentiment d'abandon parce que les services publics sont partis, parce que la poste est partie, par exemple, etc. Si en plus de ça, effectivement, le nombre d'agences ferme chaque année, il est de plus en plus important, si en plus de ça, les agences physiques ferment, est-ce que c'est pas un risque quand même d'abandon supplémentaire ou de renforcer ce sentiment ?
Alors, d'abord, c'est perçu comme ça par les clients, ou on va dire les citoyens, qui perçoivent la banque. Et c'est aussi une particularité française, c'est que la banque est considérée comme un service public. Parce que la banque a été très longtemps encadrée par les pouvoirs publics. Hein. Il faut rappeler qu'il y a eu l'encadrement du crédit. C'est pas si ancien que ça. Hein. Les générations comme moi avons connu l'encadrement du crédit. Donc, l'attachement pour les Français, la banque, c'est un service public. Or, en fait, la banque, c'est une entreprise privée comme une autre. Et donc, on est dans ce hiatus de perception de clients et puis de la réalité économique de la banque. Alors, bien évidemment, les banques, et notamment les banques coopératives, sont très attachées à leur territoire. Donc, faut attention, essayent de rester présents. Mais la présence n'est pas forcément que par une agence bancaire physique. Ça peut être par des automates, mettre en place des services, de relations à distance, etc. Enfin, il y a plusieurs façons.
Et il y a même des automates qui ferment. que l'on ferme
oui,
aujourd'hui.
Oui, parce que...
Il y a moins de liquide qui circule.
Voilà, parce qu'il y a très très peu de liquide. Et c'est vrai que pour les personnes âgées ou les personnes qui n'ont pas les moyens, je vais dire, de faire la banque à distance ou qui n'ont pas envie d'utiliser ces moyens, c'est vrai que lorsque l'agence ou lorsque l'automate disparaît, pour eux, ben c'est, ils sont perdus, ils se sentent abandonnés. Donc c'est ce qu'essayent de faire les banques, c'est de trouver des solutions alternatives. Donc c'est vrai que c'est pas facile.
Oui. C'est pas dangereux justement que les automates disparaissent, que le liquide soit devenu rare?
Alors, dangereux, je ne pense pas. Par contre, c'est vrai que pour un certain client, le fait de ne plus avoir d'espèces, c'est pour eux une perte d'autonomie complète.
Oui, parce que c'est quand même une liberté, l'argent.
C'est une liberté, puis c'est une façon pour eux
de
vivre. Ouais. C'est pour eux, c'est leur façon de vivre. Il y a encore des personnes qui fonctionnent beaucoup aux espèces, aux chèques. La carte bancaire, pour certains, c'est pas. Il y a une certaine appréhension.
Puis même, on est quand même. On sait tout. Enfin, tout le monde sait tout ce qu'on fait, en fait, avec la carte bancaire.
Il
y a quand même une certaine liberté, c'est quand même moins...
Mais bon, ça a quand même fortement disparu parce que la législation a restreint les paiements en liquide, etc. Donc c'est vrai que tout doucement, on vient sur des moyens dématérialisés. Mais c'est vrai que, que la banque reste présente sur les territoires, c'est quelque chose de très important. Donc je pense que toutes les banques françaises et principalement les banques mutualistes sont très attachées à leur territoire et font attention d'être présents. Alors c'est pas forcément autant présent que parfois dans des petites villes, il y avait plusieurs agences. Maintenant, il y a des regroupements d'agences sur un seul endroit. On essaye d'optimiser entre guillemets notre réseau de distribution, ce qui est normal, hein, ce qui est une saine gestion aussi. Hein. Mais on essaye quand même d'être présent. Et
c'est vrai que moins d'agences, c'est aussi moins de frais. Enfin, pour l'entreprise.
Oui, mais
bien évidemment.
Ces frais sont remplacés par des investissements, sur les nouvelles technologies, qui sont très très importants. Une application, l'accès à votre application sur smartphone. Derrière, il y a toute une infrastructure donc IT derrière. En système d'information, donc c'est des investissements considérables pour les banques. Donc avant, il y avait un investissement dans des agences, c'était physique, c'était visible, c'était du dur. Maintenant, les investissements sont sur les systèmes d'information et donc les investissements sont au moins aussi importants.
Aussi importants que pour les agences physiques.
Oui, tout à fait.
Bertrand Blanpin, Arkéa Banque, votre banque. Ce n'est pas n'importe quelle banque, c'est une banque, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, coopérative. Racontez-nous, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout ?
Je pense que c'est une façon de faire la banque. Moi, j'ai toujours été dans des banques coopératives. Hein. Je pense que je me sentirais pas à l'aise dans une banque qui n'est pas coopérative. Parce qu'il y a d'abord un attachement profond des clients, des sociétaires à leur banque. Et il faut rappeler que les propriétaires, ce sont les clients. Hein, ce ne sont pas des actionnaires. Ce sont les clients qui ils sont porteurs de parts sociales. Et donc cet attachement des clients et parfois le rappel à rester concret pour les dirigeants est quelque chose d'important. Donc il y a toujours cet attachement au territoire. Il y a le fait de bien expliquer ce que nous faisons en termes de banque, quelle est notre stratégie. Nos clients veulent comprendre ce que nous faisons. Et donc, il y a ce dialogue, on va dire, permanent entre les dirigeants de la banque et les sociétaires, représentés par nos administrateurs. Et donc, je pense que c'est... on a toujours, entre guillemets, une corde de rappel, si on veut avoir un peu la tête un peu trop dans les nuages. Il y a la corde de rappel en disant, bah oui, mais expliquez-nous, on ne comprend pas. Et ça, c'est
cette
vision de long terme et sur le fait de dire, on a besoin de comprendre, expliquez-nous, et on veut... Et que les clients, parfois, disent, je ne comprends pas, expliquez-nous bien ce qu'on fait. On peut permettre de prendre un peu de recul, etc. Donc, moi, je pense que les banques mutualistes sont les banques qui assurent la plus grande pérennité sur le système bancaire français.
Alors 12 000 clients, hein, c'est ça à peu près.
Oui, oui. Alors on n'est que sur le B2B. Le B2B. Donc c'est-à-dire que nous nous adressons qu'à des entreprises, des professionnels. Nous n'exerçons pas sur le marché des particuliers.
Des ETI, grosses ETI, etc.
Tout à fait. Oui, nous adressons, on va dire, quatre marchés, pour faire simple. Le marché des entreprises, principalement sur les ETI. Notre cœur de cible, c'est 50 millions, 1,5 milliard. Nous sommes sur ce qu'on appelle chez nous les institutionnels, donc les collectivités territoriales et leurs satellites, les SEM, SEM d'exploitation, SEM d'aménagement, SEM de gestion. Nous sommes sur l'immobilier privé et public. Mmh. Hein, public, c'est le logement social. Hein, nous sommes un des grands acteurs privés sur le logement social en France. Et puis nous sommes sur l'immobilier privé avec la promotion immobilière, les foncières, les marchands de biens. Nous sommes, je pense, un acteur reconnu sur ce marché. Et puis dernier marché que nous adressons, ce sont les infrastructures. Hein, c'est principalement le très haut débit en France. Hein. Nous avons structuré beaucoup de projets de très haut débit en France. D'ailleurs, les premiers ont été structurés par Arkéa. Nous avons financé les lignes de LGV, des autoroutes, des champs d'éoliennes marines, etc.
Absolument. Tiens, puisque vous avez cette relation très directe avec les entreprises, hein, on le dit, comment vont les entreprises ? Parce qu'elles ont été quand même largement soutenues par le gouvernement pendant toute la pandémie.
Et tant mieux.
Et là, ça redémarre plein pot. Comment vous observez tout ça ? Qu'est-ce que vous constatez ?
Alors, comme vous le disiez, l'État a joué un rôle important. Mmh. Et s'il n'y avait pas eu l'effort des pouvoirs publics, hein, que ce soit en France, mais dans le monde, je pense que la crise aurait été catastrophique. Hein. Je pense qu'on ne serait même pas autour de la table pour en discuter. L'État a joué un rôle très important en mettant en place des dispositifs qui ont permis aux entreprises sur la trésorerie de passer cette crise, entre guillemets, le moins mal possible. Et le dispositif, notamment avec les PGE, mais aussi bientôt, enfin en cours avec les prêts participatifs, ont permis aux entreprises de passer ces trois périodes de confinement, on va dire, le mieux possible. Alors après, il y a différents types d'entreprises. Nous sommes plutôt sur les ETI. Donc on va dire que les ETI sont assez résilientes sur cette crise. Il y a des secteurs d'activité qui ont même bénéficié de la crise, hein, parce qu'on parlait tout à l'heure de piscines. Mais on peut parler de tout ce qui concerne l'agroalimentaire. Hein. Les Français sont restés chez eux, ont eu besoin de se nourrir, etc. Donc ces secteurs d'activité ont bien fonctionné. On est un acteur important aussi de la GMS. Les GMS sont restées ouvertes pendant toute la crise, donc ont eu une belle année 2020. On est dans la santé a très bien fonctionné.
L'immobilier
a bien fonctionné parce qu'il y a eu une sorte de valeur refuge vers l'immobilier. Et il y avait encore du stock. Donc le stock a été commercialisé. Sur l'immobilier, on y reviendra peut-être, mais c'est plutôt les années à venir. Donc voilà, il y a des secteurs d'activité qui ont bien fonctionné. Puis après, peut-être à l'autre bout du spectre, les petites entreprises, les professionnels, hein, les commerçants, artisans, eux ont connu la crise. C'était beaucoup plus dur pour eux. Ils n'avaient pas forcément la trésorerie, les réserves pour passer cette crise. Donc pour certains, et d'ailleurs c'est les reportages qu'on a pu voir à la télévision ou à la radio, forcément les
sur petits, Radio Imo notamment.
Les petits ont forcément beaucoup souffert.
Comment vous les accompagnez alors les petits là dans ce cadre-là, par exemple les petites entreprises
les dispositifs mis en place par l'État. Hein, et donc il faut rappeler que les banques très vite, lorsqu'il y a eu le premier confinement pour fin mars sur tout ce qui était crédibo, on avait fait le report des échéances. Les clients qui nous ont demandé aussi sur les crédits classiques, les échéances ont été reportées. Je pense que l'ensemble des collaborateurs des banques, et notamment d'Arkéa, se sont mobilisés. Hein. On a des collaborateurs qui ont bossé très dur. On a payé des heures supplémentaires. On a payé en heures supplémentaires parce que les collaborateurs voulaient vraiment que les clients n'aient pas de problème. Donc ils se sont mobilisés en mars 2020 pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Donc les dispositifs et puis aussi soit des facilités de caisse, soit des crédits entre guillemets de restructuration. Donc il y a eu un accompagnement des banques auprès des entreprises. Alors comme je vous l'ai dit, nous on est plutôt sur des ETI, donc on a moins connu cette situation, mais on a quelques confrères avec lesquels on discute qui accompagnent un certain nombre de clients.
On verra dans les mois qui viennent si effectivement ces petites entreprises là dont on parle vont tenir le coup ou pas. On le verra notamment à la rentrée de septembre, bien évidemment. L'avenir, le redémarrage, il passe par la couleur verte, si je puis dire. Le vert est partout, hein, évidemment. Vous vous êtes d'ailleurs repositionné sur les produits bancaires dits responsables. Alors, expliquez-nous, ça signifie quoi concrètement ?
Alors, ça veut dire que là, il y a un mouvement de société qui était lancé bien avant cette crise sanitaire, hein,
qui était accéléré là pour le coup.
La crise sanitaire a accéléré toutes les tendances qui étaient en train de s'amorcer. Et notamment les tendances sur avoir une planète beaucoup plus propre, être le moins polluant possible, etc. Donc nous avons lancé dès 2018 sur nos produits de placement financier une gamme, ce qu'on appelle ISR, hein, c'est des investissements socialement responsables. Et donc on propose à nos clients sur les produits financiers de placer sur des gammes vraiment labellisées ISR. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans ces fonds, il n'y a pas d'investissement dans le charbon, etc. On est plutôt sur des investissements sur des énergies renouvelables, etc.
Donc ça, c'est donc ce on que... peut gagner de l'argent si on est client. On peut gagner de l'argent sur de l'énergie renouvelable.
Voilà,
si on investit
sur des fonds ISR et on s'aperçoit que les performances c'est toujours ce qu'on peut constater. Les performances passées sont très bonnes et voire parfois meilleures sur ce type de produit.
Des pourcentages à combien à peu près de rendement de...
Ça dépend le type, si on est sur du monétaire, si on est sur du long terme, etc. Donc c'est toujours lié à l'horizon de temps, donc je ne peux pas vous donner de fourchette, mais grosso modo, il surperforme par rapport à des fonds classiques. Donc ce n'est pas inintéressant de regarder ça, qu'on soit particulier, qu'on soit entreprise. Nous avons mis en place aussi à la même époque, en 2018, des comptes à terme qu'on appelait RSE, c'est-à-dire qu'on propose à notre client de placer son argent sur un compte à terme, mais on lui propose de le rémunérer moins. Admettons qu'à l'époque, on le rémunérait peut-être 1%, on lui propose du 0,80. Les 20 centimes de différence, on les met pour, entre guillemets, abonder des crédits. Donc c'est le client qui a un projet, on lui fait un prêt RSE. Et ce prêt RSE, il bénéficie de 20 centimes de moins que le taux normal.
Donc le client accepte d'être payé moins, en fait.
Il accepte d'être payé moins, mais en contrepartie, ce qu'il abandonne permet de financer des projets, des projets à vocation RSE. Et d'ailleurs, on a créé un petit comité où les clients choisissent eux-mêmes les projets.
Et vous sentez que les adeptes sont là, quoi.
De toute façon, sur des grands, alors ça concerne plus des grands investisseurs, ils trouvaient que l'idée était très intéressante. Et puis, eux, ça valorise aussi les placements. Donc, ils peuvent aussi avoir un retour. Et puis, la dernière innovation que nous avons mise en place, les premiers ont débuté en février 2020, c'est le pré-pacte. On va en parler, donc je vous laisse y revenir.
Justement, non, je voulais juste revenir sur ce vert, on parle que de ça. Voilà. Est-ce que ce n'est pas un peu du greenwashing aussi
Non, parce que ça ne veut pas dire qu'on est parfait dans la mise en place de ces produits. Hein. Ouais. On est au début, donc...
Et vous pensez que ça va durer ?
On peut faire des erreurs. Oui, ça va durer parce que c'est une tendance de fond. Pour recruter un collaborateur, un jeune collaborateur, il regarde le projet, il regarde si l'entreprise a une raison d'être. Est-ce qu'on est en cohérence entre le discours et les actes, etc. Enfin, on s'aperçoit qu'on a ces discussions dans les recrutements. Moi, j'ai fait des discussions avec des chefs d'entreprise.
Non, mais ça, c'est très intéressant, ça.
Avec des chefs d'entreprise. Hein, pendant trois quarts d'heure, ils m'interrogeaient sur la politique de Crédit Mutuel Arkéa. Est-ce qu'on a une raison d'être?
C'est quoi nos orientations,
etc. C'est nouveau, mais
c'est très à la mode.
C'est intégré. Et pour certains dirigeants d'entreprise, c'est important. Ils veulent avoir des fournisseurs, notamment un banquier.
Mais est-ce que c'est concret? Parce que c'est nouveau, une raison d'être, ça n'existait pas avant. Est-ce que c'est vraiment concret? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Ou c'est un peu...
Je sens que vous ne croyez pas à l'écologie.
Totalement. Je suis totalement pour.
Tout instrument est bon. C'est la façon dont on l'utilise qui peut être dévoyé. D'abord, la raison d'être permet, aux dirigeants et aux actionnaires ou aux sociétaires, dans le cas des groupes mutualistes, de se reposer la question à quoi sert notre banque.
Oui.
Et nous, on a clairement défini plusieurs axes. Le premier, c'est que nous sommes un acteur des territoires. Et je pense que ça, c'est ancré en nous. C'est-à-dire que nous sommes issus des territoires,
Bien sûr,
etc.
Ouais.
Donc ça, c'est le premier point.
Gens,
On veut une finance qui soit, responsable. Et donc derrière, c'est pas proposer n'importe quel type de produit, c'est aussi co-construire avec nos clients un certain nombre de produits pour répondre à leurs attentes, etc. Donc ça, je pense que c'est des éléments que nous avons mis dans la raison d'être du groupe et qui sont, je veux dire, des curseurs importants. Mmh. Et donc nous, dans toutes les décisions que nous prenons, nous faisons attention à être un acteur des territoires, d'accompagner nos clients dans leur transition environnementale et sociétale, et puis aussi d'être un groupe de services financiers plutôt éthique et donc de co-construire avec nos clients, nos produits et nos solutions financières.
Et justement, alors vous parliez du pré-pacte, vous communiquiez beaucoup dessus. Hein, c'est, donc je le rappelle brièvement, c'est un prêt dont le coût pour l'entreprise qui y souscrit évolue. Plusieurs bonifications sont possibles si le client améliore ses performances ESG. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ESG, je rappelle que c'est environnemental, social et de gouvernance. Mmh. En 2020, vous avez prêté à des acteurs privés et publics 167 millions de crédits, d'euros. Mmh. De crédit, pacte. Or, cela ne représente pas même 1% de vos encours de crédit 2020, donc qui, je rappelle, sont de 17,4 milliards. C'est peu en réalité. Comment vous l'expliquez ?
Il y a une belle marge de progression, là.
On l'a lancé, comme je vous l'ai dit, le premier pré-pacte a été fait en février 2020. C'est un produit qu'on a, entre guillemets, conçu en 2019 et qu'on a commencé à proposer à nos clients ou à nos prospects, parce qu'il y a beaucoup de prospects qui se sont trouvés intéressés par ce produit. Et donc nous sommes rentrés en relation avec des entreprises non clientes. Donc c'était le début, c'était en période de pandémie. Il y a un petit peu de temps aussi, parce qu'il faut construire, comme vous le disiez, l'entreprise a un projet. Bon, nous, on regarde ce projet. On lui propose une évaluation indépendante. En l'occurrence, on a pris un acteur reconnu qui est Etifinance, qui est complètement indépendant d'Arkéa, qui note l'entreprise sous les critères ESG. D'ailleurs, c'est eux qui ont créé un des référentiels ESG en France et en Europe. Donc ça prend un peu de temps, l'évaluation. Et puis après, il y a un plan d'action qui est construit avec l'entreprise. Et Etifinance va tous les ans vérifier si l'engagement de l'entreprise ou l'ambition de l'entreprise est tenue. Et ça peut aller jusqu'à une réduction de 20% des intérêts sur le crédit.
Et justement, du coup, l'évaluation de votre portefeuille client, c'est pour ce pré-pacte, parce que... Vous disiez que vous voulez mesurer donc les sujets extra-financiers, la prise en compte du capital humain, qui est très importante pour une entreprise, la gestion des déchets aussi, ça c'est un gros problème, ça devient très problématique. Vous avez passé donc 79% de vos entreprises, 68% des institutionnels, 83% des acteurs de l'immobilier au tamis. Quelles sont les conclusions du coup sur toutes ces entreprises en fait ? La plupart jouent le jeu.
La plupart jouent le jeu. On entame notre cinquième année de grille, entre guillemets, RSE. Alors, au début, d'accord, on l'a fait de façon très empirique. Les équipes internes ont regardé ce qui existait, sur quoi on pouvait, entre guillemets, noter les différents indicateurs. Et donc, on est rentré dans une démarche avec le dirigeant. C'est-à-dire que le dirigeant trouve ça intéressant aussi parce que ça lui permet d'avoir une réflexion. Peut-être aussi de reprendre un petit peu de hauteur aussi. C'est pas une démarche classique d'un banquier lorsqu'on l'avait lancé. On n'est pas simplement, quel est votre chiffre d'affaires, votre marge sur EBITDA, votre EBIT, etc. Le ratio de levier, etc. On lui pose des questions en termes de gouvernance. Est-ce que votre conseil d'administration est équilibré ? Est-ce qu'il y a
Et si l'entreprise ne répond pas du tout à ces critères, en fait, quel serait l'impact pour elle ?
Ça veut dire qu'à terme, c'est-à-dire que nous, on est là, je l'ai dit, dans notre raison d'être, on accompagne nos clients dans la transition, parce qu'on ne va pas devenir parfait du jour au lendemain. Donc, nous, on est là aussi pour quelqu'un qui serait à la rigueur pollueur, on puisse l'accompagner sur des investissements qui vont faire
qu'il
devienne moins pollueur. Donc, on va plutôt l'accompagner dans sa transition. Donc, à terme, ce qui arrivera, et de toute façon, la réglementation européenne va nous contraindre, c'est qu'on tiendra compte dans l'accord d'un crédit, est-ce que l'entreprise est, entre guillemets, vertueuse dans sa politique ESG. Il y a des réglementations, on s'appelle disclosure, forcément c'est du bon français de l'Europe, et qui contraignent les banques à noter les entreprises sous ces aspects, à en tenir compte dans l'octroi du crédit, etc. Et donc plus on va aller...
On se dirige vers ça,
vers ça. Il y aura les critères, est-ce que le client peut nous rembourser, mais est-ce que le client aussi, il est vertueux ou pas, quoi.
D'accord.
Et avec une consommation de de fonds propres plus forte pour la banque si l'entreprise n'est pas
ne non, respecte mais, pas tout ça, c'est très bien. Mais enfin, comme disait Pompidou, faut arrêter d'emmerder les Français. Bon, bah là, c'est un peu ça quand même. Non, on en rajoute.
Il
mais
faut du vert, Christophe.
C'est pour le bien de la planète.
Bien sûr.
Donc,
non, faut y penser.
Voilà, c'est quand même.
C'est important.
C'est-à-dire que les pouvoirs publics ou les décideurs, et notamment c'est le Parlement européen, sont élus par les Français en partie,
bien sûr. Hein,
par la population. Donc c'est qu'il y a quand même
il y a une prise de conscience.
C'est une demande des populations pour aller dans ce sens. Après, c'est à quelle vitesse on peut le faire. Donc c'est pour ça que...
On sent que ça s'accélère quand même.
Ça s'accélère fortement. Ça s'accélère fortement.
Ouais. Bertrand Blanpin, vous restez avec nous, bien évidemment, jusqu'à 9h, président du directoire d'Arkéa Banque, entreprise et institutionnelle. C'est notre invité dans le MAG de l'IMO ce matin. On se retrouve dans un instant. Restez avec nous. À tout de suite.
Le MAG de l'IMO revient avec Promu, Crédit Advisor et Opinion System.
Un de vos choix, Bertrand Blanpin. Pourquoi ce choix ?
Alors, c'est une musique qu'on écoutait avec mes enfants quand je les conduisais à l'école le matin. On mettait ça mettait la bonne humeur la voiture et ça crée du peps. Et donc, Puis bon, Cassius, c'était assez... Enfin, c'est un groupe français.
Oui.
Hein, il ne faut pas l'oublier, qui était très précurseur... sur la musique, le leader qui est malheureusement décédé récemment a collaboré avec les plus grands, donc on les connaît pas trop, on connaît la musique surtout Toup Toup, mais c'est un groupe qui a une grande influence sur la musique contemporaine.
C'est vrai.
Voilà.
Et on n'en parle pas assez peut-être de ce groupe.
Oui, tout à fait. Oui, mais parce que ils ont des noms anglais. On les voit pas trop passer à la télé, etc.
C'est
un groupe qui a eu énormément d'influence sur les plus grands, les plus connus actuellement.
Et qui vous êtes, du coup, le matin, être de bonne humeur.
Voilà, on trotte, j'aime bien. Mais bon,
donc,
c'est
à 5h du matin, quand vous vous réveillez, Toup Toup. hop, en avant.
Alors, pas forcément tout de suite, mais c'est vrai que, non, mais c'est vrai que moi, je me déplace beaucoup, puisque on a une couverture nationale et que je vais forcément au contact de nos clients. Et donc, bon, je suis dans les avions, dans les trains, etc. Et donc, j'ai ma playlist, je mets ça, et même en bossant, je peux écouter de la musique.
Ça vous motive ?
Oui, mais ça me concentre aussi, oui.
Ah oui, vous arrivez à calculer, vous,
oui,
en même
j'ai
temps.
Toujours, mais moi, mais
moi, je suis incapable.
C'était le
monde
grand,
s'en fiche de moi, mais...
l'horreur de ma mère, je révisais mes examens avec la musique à fond.
Mais de la quel genre de musique ? Parce que moi, ça m'arrive de mettre de la musique classique pour me concentrer, mais c'est...
De tout.
Ah oui.
De tout, soit de la musique classique, ça peut être vraiment classique, ou du jazz, ça peut être... quand j'étais jeune, ça pouvait être les Bee Gees, ça pouvait être Deep Purple.
Et vous jouez d'un instrument ?
J'ai joué de l'instrument jusqu'en... J'étais en supérieur, en conservatoire. J'ai arrêté quand j'ai eu mon bac, parce qu'avec les études, c'était compliqué. Mais je suis celui qui a mal tourné dans la famille. Parce mes deux sœurs sont musiciennes professionnelles. Ouais.
D'accord. Famille de musiciens.
Donc, quand on est banquier, on a mal tourné dans la famille.
C'est marrant.
Je plaisante. Mais c'est vrai que dans la famille, tous les aînés ont mal tourné et les suivants sont tous musiciens professionnels.
Donc, vous êtes l'aîné, vous avez deux petites sœurs.
J'ai deux petites sœurs. Et donc, chez ma cousine, c'est la même chose. L'aîné a mal tourné et les suivants sont musiciennes professionnelles aussi. Voilà.
D'accord.
Alors, Bertrand Blanpin, on va entendre certains de vos proches tout à l'heure.
Oui.
Dans quelques minutes maintenant. Je ne peux pas vous dire ce qu'il raconte immédiatement. Vous allez le découvrir, bien entendu. Je crois qu'il y a notamment votre épouse qui va être avec nous. Donc, attention, il va falloir se concentrer, parce qu'après, j'imagine que vous allez débriefer, vous allez débriefer à la maison avec elle. Évidemment, on est heureux de vous avoir, parce qu'on parle de votre secteur d'activité, on parle aussi de l'actualité, des entreprises qui sont vos clientes, bien entendu, et notamment les entreprises de l'immobilier chez Arkéa Banque. Tiens, alors l'immobilier, moi je voudrais qu'on dise un mot là-dessus quand même, parce que l'immobilier neuf, par exemple, est à l'arrêt. C'est très compliqué. En plus, il y a un deuxième problème qui se précise de plus en plus, enfin qui est déjà là, mais qui a l'air de s'aggraver. C'est les matières premières qui ne sont pas au rendez-vous parce que il y a une reprise qui est mondiale, que un certain nombre de pays comme la Chine sont très gourmands en matières premières et que nous on a presque des chantiers d'immobilier neuf à l'arrêt, ce qui est absolument dingue quelque part. Justement, les entreprises de l'immobilier par rapport à cette problématique-là du neuf aujourd'hui, parce que évidemment il y a ce qu'on vient de dire, il y a le fait que un certain nombre de maires appuient sur le frein et qu'on veut plus voir une grue devant sa fenêtre. Donc, il n'y a plus de construction et j'en passe et des meilleurs. Comment vivent les entreprises de l'immobilier ce moment-là ? Comment vous ressentez les choses ?
Alors, 2020-2021, globalement, vont encore être des bonnes années. Enfin, il faut rappeler que le marché de l'immobilier, notamment sur la promotion, il y a un effet de différé. C'est-à-dire que ce qui est livré maintenant a été commandé il y a 2 ans, en général, à peu près, se met en place, etc. Donc, je pense que les années un petit peu plus compliquées vont être dans les années qui viennent, peut-être 2022, etc. Parce que, comme vous le dites, il y a d'une part, il faut trouver le foncier, et que le foncier devient de plus en plus difficile à trouver. Alors, vous citiez les changements de politique de certaines collectivités, quand il y a eu des alternances, ou même quand il n'y a pas eu d'alternance, il y a une attention beaucoup plus forte à la construction.
Il y a eu la campagne des municipales.
Il y a eu la campagne des municipales. Il y a ce qu'on disait tout à l'heure, faire attention à l'environnement, etc. Ouais. Donc, comme souvent, il y a une sorte de curseur qui se déplace peut-être un peu trop fort d'un côté. Bon, je pense que ça va se régler parce que peu construire, ça a quand même des conséquences néfastes. C'est-à-dire que contrairement à la volonté parfois qui est politique, si vous réduisez le nombre de constructions, vous avez de fait une hausse du prix de l'immobilier. Et donc, en général, on essaye de faire attention que l'accession à la propriété ou l'accession au logement des plus faibles ou des moins riches puissent se faire facilement. Or, quand on réduit l'offre immobilière, c'est l'inverse qui se produit.
Et puis, il y a déjà un problème de logement en France. Hein. Je le rappelle, l'Abbé Pierre, la Fondation Abbé Pierre estime qu'il y a 4,1 millions de personnes mal logées en France et 12,1 millions de personnes fragilisées par rapport au logement, justement. Là, vous parliez des nouvelles règles qui vont entrer en vigueur dans les années à venir. Est-ce que ça ne va pas, justement, faire encore baisser le nombre de logements disponibles, déjà, les interdictions de louer? Vous savez, la loi climat et résilience, le volet se loger.
Ben, en fait, d'abord, je pense que les pouvoirs publics essayent de faire en sorte que les gens qui louent un bien, louent un bien salubre. Ouais. Et c'est vrai qu'on voit quand même des choses qui sont assez aberrantes dans l'époque où on est.
Oui, mais là, on parle de l'extrême. Il y a
de loger dans des biens salubres. Après, c'est toujours la difficulté, c'est quel est l'investissement des pouvoirs publics sur le logement social, enfin sur la politique du logement. On parle qu'il manque chaque année à peu près 100 000 ou 150 000, voire même un peu plus chaque année. Donc ça fait quand même quelques décennies, moi j'entends ça.
Plus de 20 ans que j'entends ça.
Oui, ouais, je pense un peu plus que ça. Donc c'est vrai qu'il y a un stock qui grossit, de déficit. Donc il y a
la population augmente aussi. Hein.
Oui, oui, il y a des tentatives d'outils qui se sont mises en place. Pour essayer de faire en sorte que l'immobilier soit le moins cher, et notamment avec des mécanismes de ne pas acheter le foncier, que le foncier reste au niveau des collectivités locales avec le BRS. Hein. Mmh. Donc, il y a des outils qui essayent d'être faits. Et puis, il y a des promoteurs privés qui travaillent aussi sur le fait d'avoir une approche peut-être différente.
Vous les accompagnez, justement ?
On les accompagne. On discutait avec deux promoteurs qui ont des idées, qui travaillent là-dessus pour faire en sorte qu'on puisse baisser le coût du logement en travaillant sur le foncier, en travaillant avec des établissements de crédit, en travaillant avec les pouvoirs publics, bien évidemment. C'est vrai que quand il y a le coût de la construction plus le coût du foncier, ça devient très cher. Donc il y a des tentatives en essayant de faire en sorte que le prix du foncier soit moins cher. Et puis il y a de l'innovation qui est faite auprès de certains promoteurs, de certains constructeurs. RT 2020, c'est bien parce que ça sort des logements qui sont vraiment de très très grande qualité. Mais après, il faut essayer de faire en sorte de baisser le prix de ces innovations, de voir est-ce que tout est nécessaire dans un logement, est-ce qu'il n'y a pas des façons différentes de construire le logement. Donc il y a des réflexions qui sont
en train d'être. Vous trouvez que ça va trop loin ?
En fait, lorsqu'on rajoute de la réglementation, bon, ça a toujours un objectif, on va dire, vertueux, sauf que ça renchérit le coût de construction, parce que c'est souvent pris comme une contrainte et c'est subi.
Mmh. Or, après,
il faut essayer de regarder est-ce que ce qu'on met dans une construction, est-ce qu'il n'y a pas des façons différentes de le faire, est-ce qu'il faut utiliser le même type de matériaux, etc. Donc je pense qu'il y a certainement, en faisant entre guillemets une sorte d'analyse de la valeur, pouvoir diminuer le prix de construction de certains logements.
On le disait tout à l'heure, pour avancer dans la discussion, vous financez donc les collectivités locales, on va y revenir, les collectivités publiques, les acteurs du logement social également, globalement. Quelles sont les spécificités du financement justement sur le logement social?
Alors, d'abord, c'est un financement de très très long terme, hein, puisqu'on est sur des financements de 40-50 ans. Donc ça, c'est une des caractéristiques du logement social en France. Hein, c'est beaucoup porté par la Caisse des dépôts et consignations.
Mais 50 ans, c'est le maximum, je crois.
Oui, voilà. La Caisse des dépôts, au travers ce qu'on appelle les fonds d'épargne, distribue une partie de l'épargne des Français, donc la transforme d'une ressource courte vers une ressource très très longue. Et puis après, vous avez quelques réseaux, il y en a quand même très très peu en France, hein, qui accompagnent le logement social, dont Crédit Mutuel Arkéa. On est sur des financements de très long terme, sur des préfinancements d'opérations. Le logement social s'est remis à construire assez fortement, reconstruit parce qu'ils ont des partenariats qui ont été noués avec les promoteurs. Et là, je rappelle qu'en 2011, quand il y a eu la crise de la liquidité, Arkéa a été un des instigateurs du rapprochement entre le monde du logement social et le monde de la promotion privée. Avant, des ventes en bloc réalisées par des promoteurs, ça n'existait pas. Les demandes ne se parlaient pas. On a créé il y a 7 ans maintenant le speed dating du logement et de l'immobilier. Ça a été le moyen de mettre en relation.
Ça fonctionne comment, tiens, ce speed dating alors?
En fait, chaque année, il y a une thématique qui sert un petit peu d'ouverture sur le monde. Et donc, bien évidemment, sur l'exercice 2020, on va être sur la partie RSE. Donc, on va travailler avec. Donc, il y aura des interventions d'élus, de promoteurs, d'aménageurs et de quelques politiques. Et puis après, il y a un aspect speed dating, donc c'est de rencontres. On a une petite application, et puis si un élu veut voir un promoteur ou vice-versa, on les met en relation pendant cette journée. Oui.
Et ça, il était temps de faire ça, c'est génial que vous ayez
donc on
mis
fait
ça en place.
Et les ventes en bloc qui permettent de construire du logement social en France, je veux dire, Arca y est pour quelque chose, puisque effectivement, c'est l'ensemble des équipes qui ont contribué à ce que ces demandes se parlent à nouveau.
Bon, Bertrand Blanpin, le moment est venu. On découvre votre activité. C'est vrai que c'est absolument passionnant, bien évidemment. Mais le moment est venu d'entendre des proches, des gens qui vous connaissent.
Petite pause émotion.
Voilà, petite pause émotion qui parle de vous. Ma chère Bérénice, je vous laisse nous présenter la personne.
Eh bien, on va commencer avec un client qui est devenu un ami.
Je pense c'est dangereux, ça, non?
Ça arrive?
Oui, c'est-à-dire qu'on a une très bonne relation avec le client. On essaye d'avoir, entre guillemets, ce qu'on appelle une intimité avec les dirigeants. Donc, c'est-à-dire que pour bien les accompagner dans leur développement, il faut bien les connaître. On essaye d'être proche de nos clients. Forcément, bien évidemment, tout en restant professionnel. Mais ça permet aussi de les accompagner dans des projets qui, pour eux, sont peut-être pas forcément réalisable, réaliste, etc. Et ça, c'est aussi des caractéristiques d'Arkea. C'est que nous, on est très ouverts sur ce que nous proposent nos clients. On cherche des solutions. Parfois, c'est compliqué, mais c'est une des caractéristiques des équipes. C'est-à-dire que on peut proposer quelque chose de, entre guillemets, qui semble incongru pour un porteur de projet. Et Arca dit, tiens, oui, pourquoi pas, on va regarder.
Ah oui.
Et ça, c'est cette attitude.
C'est
sur la banque. On peut l'avoir avec des clients. Par exemple, la CMOP de Châtenay-Malabry, c'est les équipes d'Arca qui l'ont structuré parce que c'était un truc que personne ne savait prendre. Et on a mis...
Personne n'y croyait?
Les gens y croyaient, mais savaient pas comment, et on n'arrivait pas à la sortir. Donc les équipes d'Arca, qu'ils soient sur l'immobilier, qu'ils soient sur l'entreprise, qu'ils soient sur les collectivités locales, on travaille ensemble. Mmh. Et nous, c'est notre capacité en interne à travailler ensemble avec nos clients pour réaliser leurs projets. Lorsqu'on parle des fintech, quand le compte Nickel s'est créé, ils sont allés voir Arkea pour regarder si on pouvait mettre en place l'infrastructure. Et
d'accord.
C'est toujours Arkea qui a l'infrastructure technique de Nickel. Céline Lazorte en parlait sur Litchi. C'est la seule banque qui lui a dit « Ok, on va regarder votre projet, c'est Arkea ». Les autres banques leur ont dit « Vous êtes HEC, pourquoi vous ne rentrez pas chez nous ?»
Sympa. Donc, c'était un client, c'est devenu un ami. Jean-Paul Legendre, on l'écoute.
Bonjour Jean-Paul Legendre.
Bonjour.
Alors vous êtes un des clients de notre invité Bertrand Blanpin. Comment votre relation est passée du professionnel, je dirais, à l'amitié?
On s'est rencontrés et puis le courant très vite passé. Parce que je pense qu'on a un peu les mêmes valeurs. Il aime l'entreprise. Je suis entrepreneur. On a besoin des banques, bien sûr. Je privilégie toujours de travailler avec des banques régionales, donc sur le groupe Arkea, le Crédit Agricole, enfin des banques qui ont vraiment une attache très très forte dans leur région, et c'était le cas avec Bertrand et avec Arkea.
Mais alors, qu'est-ce qui a déclenché l'amitié? Vous avez pris un pot ensemble, vous êtes allé faire du golf?
Oui, c'est exactement ça. On a déjeuné ensemble, puis on s'est retrouvé sur un terrain de golf. Alors bien sûr, la différence, c'est qu'il joue beaucoup, beaucoup mieux que moi. c'est facile parce que je suis un tout petit joueur et lui est quand même un bon classement et est un passionné de golf et il joue beaucoup plus que moi. Et on se voit régulièrement dans le cadre, maintenant dans un cadre plus convivial, puisque moi j'ai lâché la direction du groupe Legendre et maintenant je m'occupe d'investissement immobilier. Donc je suis toujours en relation avec ses équipes quand même.
Alors, il y a toujours des moments un peu charnières dans l'amitié. Est-ce que vous vous souvenez de quand vous vous êtes dit « Bertrand, c'est vraiment mon ami » ?
Ah bah, écoutez, je ne sais pas si je me suis vraiment posé cette question-là, mais en tout cas, c'est quelqu'un de très accessible, de très simple. Moi, je crois l'être également, donc j'aime bien les gens directs où on se dit ce qu'on pense. On peut pas toujours se dire oui. Dans le business, c'est pas toujours facile, mais il y a pas de sous-entendu, il y a pas de faux. C'est une relation directe et moi, ça me va très bien.
Eh ben, écoutez, Jean-Paul, Bertrand, il est avec nous là en ce moment dans le studio. Si vous avez un message à lui dire, un gage, pourquoi pas, tant qu'on y est, allez-y, il vous écoute.
Bertrand. Non, ben écoute, je te souhaite bonjour et puis j'espère que on va bientôt se revoir sur un terrain de golf. Or, comme d'habitude, tu vas me mettre une pâtée, mais c'est pas grave. Je prends en souriant parce que je n'arriverai jamais à ton niveau, mais je prends beaucoup de plaisir à jouer avec toi.
Bon, ben
un
voilà,
golfeur alors.
Un vrai golfeur et qui triomphe visiblement à chaque fois sur le terrain de golf. Si j'ai bien compris.
Oui, enfin, ça c'est l'esprit de compétition. J'ai toujours fait du sport de haut niveau. J'ai fait pas mal de sports, mais plusieurs sports à haut niveau. Donc voilà, le golf, c'est un sport d'abord qui vide la tête. Hein. Je suis venu au golf vraiment par accident. Hein. Je venais du tennis on m'a mis un club de golf dans les mains comme ça parce que pour essayer, donc j'ai accroché tout de suite et puis donc ça vide la tête, on est dans un endroit sympathique et puis le golf, on fait de très très belles rencontres et sans le golf, je pense qu'il y a plein de personnes que je connais maintenant que je n'aurais pas pu rencontrer. Et puis, le golf, c'est un accélérateur de relations. C'est-à-dire que vous passez 4-5 heures avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Moi, j'ai rencontré des personnes que je ne connaissais pas. Et au bout de 5 heures, je savais énormément de choses d'eux. Et d'ailleurs, j'ai des collaborateurs qui font très, très bien leur travail. En 5 ans, je veux dire, ils n'avaient pas autant d'informations que moi en passant 5 heures sur un terrain de golf.
Et le tennis, c'est fini. On est en plein Roland-Garros.
Alors,
le tennis,
oui, c'est fini. Nadal ou Djoko?
Bon, sur terre battue, Nadal va, je pense, et au-dessus, parce qu'il a un jeu qui convient nettement mieux à la terre que Djoko. Hein. Djoko, c'est un formidable relanceur. Bon, Nadal a le rythme, a l'effet du lift. Hein, et puis, bon, c'est quand même physiquement, c'est impressionnant.
Le sport et la banque. Ça a toujours été dans la perspective du jeune homme que vous avez été.
Non, enfin le sport, j'ai toujours fait du sport. Quand j'étais vraiment gamin, hein, j'ai commencé à jouer au foot. Je pense que j'étais dans les poussins. J'avais 6 ans, donc j'ai commencé vraiment. Donc j'ai toujours fait du sport en compétition. Et voilà. Et après la banque. Quand j'ai fait mes études, je me suis orienté plutôt vers des études, même si j'ai fait de l'économie et puis une école de commerce, mais ça a toujours été orienté finance. Et à l'époque, dans ma génération, ce qui nous intéressait, c'était sortir sur de l'audit ou du contrôle de gestion. Ouais. Donc,
c'est ce que vous avez fait d'ailleurs au début de votre carrière.
Je suis sorti sur l'audit, j'ai commencé par l'audit et c'est une très bonne école de formation.
Ouais. Qu'est-ce qui vous a vraiment plu? Enfin, ça a été une passion immédiate?
Alors, d'abord, moi, je suis rentré parce que le métier de la finance, au sens large, m'intéressait. Et l'avantage d'une banque, c'est que vous pouvez faire plein de métiers au sein d'une même entreprise. Moi, j'ai eu la chance de faire à peu près tous les métiers de la banque. Hein. Donc, ce soit bon, forcément le commercial, des RH, l'informatique, la finance, la stratégie, etc. Donc
et pourquoi vous aviez envie de ça? Vous ne saviez pas exactement ce qui vous plairait ou vous aviez envie, vous êtes curieux, vous êtes.
Non,
vous
mais
aimez
je pense que moi j'aime bien avoir des projets, d'avoir des challenges, de réaliser ces challenges. Et bon, après, une fois qu'ils sont réalisés. On a envie de nouveaux challenges. Donc, mes différents patrons que j'ai eus jusqu'à présent m'ont toujours, entre guillemets, utilisé, fait progresser en me donnant de nouveaux challenges. Et puis, voilà. Et puis, moi, ça m'a enrichi. Et puis, maintenant, j'ai la chance d'avoir une très, très bonne connaissance de la banque parce que les métiers, je les ai tous exercés. Ouais.
Tiens, dans les enfants, des futurs banquiers?
Non.
Des musiciens, peut-être?
Pas du tout.
Des joueurs de tennis? Non,
j'ai une fille qui est un peu artiste. Elle est dans la mode, donc Donc c'est le côté artistique de la famille, voilà. Mais non, il n'y a pas de banquier dans mes enfants. Donc.
Bertrand Blanpin, moi je vous propose qu'on écoute maintenant votre épouse, parce qu'elle a des choses à vous dire. Elle s'est confiée à nous. Elle va se confier à vous maintenant, bien entendu. Donc on
sent de l'émotion tout de suite quand on dit le mot épouse.
Ouais.
Hein.
Non, mais on va l'écouter et puis on terminera par quand même une ou deux petites questions un peu plus politiques, parce que les régionales arrivent. Hein. On écoute l'épouse de Bertrand Blanpin.
Votre épouse, Annick.
C'est parti.
C'est parti.
Bonjour Annick Blanpin.
Bonjour Elodie, Rabel.
Vous êtes donc l'épouse de notre invité Bertrand Blanpin. Dites-moi, ça fait combien de temps que vous êtes mariés tous les deux ?
On s'est mariés le 3 décembre 2016.
Et vous vous connaissez depuis ?
Oh, alors j'ai pas de date précise. J'ai encore l'image de cette rencontre. C'était, à mon avis, c'était plus de 10 ans auparavant. C'était à mon club de golf, au Pau Golf Club, dans les Pyrénées-Atlantiques. Et donc il y avait une partie de golf où il est arrivé avec un de ses amis et collègues et moi j'étais avec des amis et on devait jouer tout un groupe ensemble, voilà comment ça s'est passé. Et donc moi je me souviens encore de cette image et c'est vrai que lui c'était vraiment la première rencontre et il me dit encore récemment, il me dit je me rappelle encore comment t'étais habillée ce jour-là. C'est très très marrant. Et donc voilà, puis après, on s'est revus, on s'est pas revus beaucoup les premières années. Je pense que les 2-3 premières années, on a peut-être dû se voir 2 fois dans l'année et échanger. Mais à chaque fois, c'était très, très fusionnel. C'est assez, comme on dit, il y a peut-être un grand amour une fois dans une vie. Voilà, et c'est lui.
Et un jour, il s'est décidé à vous faire sa déclaration.
Je l'ai fait en même temps, mais c'était longtemps après.
Très mignon. Bah, j'imagine que depuis tout ce temps, il y a bien une petite anecdote qui vous fait toujours rire quand vous y repensez.
C'était pendant le confinement. En fait, je vais chez un kiné faire de la gym 2 fois par semaine. Et en fait, avec le confinement, on ne faisait plus rien. Et donc, Bertrand me dit, j'aurais pourquoi pas aller chez le kiné 1 fois par semaine pour faire de la gym. Et donc, voilà, j'organise le rendez-vous un soir. Bertrand va à sa séance avec le kiné, 3/4 d'heure, 1 heure, et il revient. Alors la séance s'est bien passée. Dans le retour que j'ai, le kiné lui fait faire des squats, plein de choses. Et donc il dit, Bertrand, ça va ? Oui, oui. Puis Bertrand continue chaque fois, il va jusqu'au bout. Enfin, parfait. Et puis 10 minutes après qu'il soit rentré à la maison, mais en fait, il doit descendre l'escalier de l'étage et il faisait pied droite, pied gauche, marche après marche. En fait, il était courbaturé de partout. Il n'en pouvait plus, donc c'était très marrant l'écart entre le cours, premier cours et les courbatures 10 minutes après être arrivé à la maison. C'était vraiment trop marrant.
Alors Bertrand est avec nous en studio. Est-ce qu'il y a un message que vous voudriez lui faire passer qu'il peut écouter là? Il vous entend.
Si j'avais un message, alors là vous me prenez, j'ai rien préparé, mais je dirais que je suis fière de toi. Je suis fière de ta réussite et puis je suis fière parce que tu es quelqu'un de bien et bon, tu le sais, je t'aime à la folie, voilà.
Eh ben,
oh, c'est beau. Et je vous ai vu faire...
Quelle déclaration.
C'est magnifique et c'est vrai que c'est très important de retenir la façon dont une femme est habillée lorsqu'on la rencontre.
Alors elle est habillée comment, racontez-nous.
C'était une tenue de golf, hein, donc un polo blanc, un t-shirt bleu marine. Ouais. Voilà.
Je me demande quand même si je vais pas me mettre au golf. Parce que rencontrer les copains plus la femme de sa vie, ça vaut quand même la peine. Hein,
voilà.
Très joli témoignage en tout cas, très beau témoignage. On voit que ça vous a ému. Hein.
Oui, tout à fait. Oui.
Bon, en tout cas, normal, le golf, c'est bien, mais visiblement, il n'y a pas de courbature au golf, alors qu'après le kiné, ça a l'air...
C'est vrai que c'est un kiné qui fait de l'entraînement, qui s'occupe de sportifs, etc. Et donc, on fait une séance, donc il me fait faire des squats. Ouais. Donc, il me dit ça va.
Pendant le confinement.
Et donc, je fais 1 heure de squat. Donc, il me dit ça va. Ben oui, ça va, pas de problème. Hein. J'ai fait les squats, j'étais même plutôt impressionné. Puis donc, je suis rentré chez moi et tout ça. Puis on a une maison à étage et puis... J'étais à l'étage, puis pour redescendre, j'avais l'impression que les jambes ne soutenaient plus.
Bertrand Blanpin, bientôt l'heure de se quitter. Le temps passe très vite en votre compagnie dans le mic de Limo sur Radio Imo. J'ai une petite question et une réponse rapide. Les régionales arrivent d'ici deux semaines. On voit quand même ce qui est en train de se dessiner, et notamment la région sud, PACA, où visiblement le Rassemblement national pourrait l'emporter. Comment vous allez faire pour travailler avec des régions qui pourraient, le cas échéant, tomber dans l'escarcelle du Rassemblement national ? Est-ce que vous vous êtes posé cette question déjà ?
Alors non, très clairement, on ne s'est pas posé cette question. D'abord, on va laisser les élections se dérouler. Et puis, on verra ce que le positionnement qu'on peut avoir, quoi. Oui.
Ouais.
Mais on va voir. C'est pas fait.
Les élections sont pas
faites. Il y a 6 ans, on le sait bien. On le sait bien que ça peut.
Ça
peut encore changer. Non, ça fait pas. Il y a rien qui.
Il y a rien qui va.
Non, il y a rien qui.
Vous saurez vous adapter.
Oui, tout à fait.
Merci en tout cas, Bertrand Blanpin, d'avoir été avec nous dans le MAC de Limo. Vous avez passé un bon moment ?
Oui, très bon. Merci pour votre invitation. Bah,
écoutez, c'était un plaisir de vous avoir en tout cas. Je rappelle que vous êtes président du directoire d'Arkéa Banque, entreprise et institutionnelle, filiale du Crédit Mutuel. Un acteur majeur du développement dans notre belle France. Voilà, tout simplement. Dans quelques instants sur Radio Imo, vous allez retrouver Allo Radio Imo, qui est un programme très important, puisqu'il permet de répondre à vos questions.
Tout à fait.
On vous embrasse et à très vite.
Le MAC de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h, à retrouver en podcast sur radio.imo et toutes les plateformes de streaming.